Merci d'être venus quand même aussi nombreux malgré le temps. Alors, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Allard, qui est professeure ordinaire à l'Université de Liège, où elle dirige le service d'histoire et technologie des arts plastiques temps moderne. Ses recherches se focalisent plus précisément sur l'art des 15e et 16e siècles, principalement dans les anciens Pays-Bas et la principauté de Liège. Ses recherches en cours portent sur Pierre Bruegel l'Ancien et sur Lambert Lombard. Voilà, je lui cède la parole.
Merci beaucoup et bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors, je vais vous parler de la Renaissance qui vous occupe, je crois, depuis un certain temps, envisagée sous des angles divers. Et pour ma part, je suis chargée d'évoquer les arts visuels en Italie. Ce qui, à vrai dire, en un peu plus d'une heure, relève de la gageure. Si même je me risquais à entreprendre une sorte de panorama des réalisations artistiques relevant des arts visuels en Italie au XVe et au XVIe siècle, en me contentant de citer les noms des grands artistes et une œuvre majeure pour certains d'entre eux, je vous retiendrai certainement pendant 3 ou 4 heures. C'est le temps que je consacre à cette matière dans les cours d'introduction aux étudiants de première année à l'université. Et donc d'expérience, je sais que cette approche requiert du temps. Par ailleurs, ce tour un peu énumératif que j'adopterai ce faisant n'est certainement pas le plus agréable et le plus adéquat ici. Alors, je vais quand même faire une sorte de petit panorama, mais ce sera extrêmement synthétique et schématique. Le but étant de planter le décor et de rappeler, en fait, des données dont je soupçonne que vous les connaissez déjà. Donc, le but, ce sera de les remettre un peu en place pour fixer des cadres. Alors, En tant qu'universitaire, je me pose toujours la question de savoir quels sont les fondements ma connaissance. Et quand j'aborde la question des arts visuels en Italie, je peux préciser que je suis dans une situation privilégiée car je dispose pour aborder cette matière-là, ce domaine-là, de sources tout à fait exceptionnelles. En effet, à l'époque va nous occuper ici, on assiste au début de l'histoire de l'art et on dispose notamment d'un ouvrage monumental dû à Giorgio Vasari intitulé, je vous le traduis, « Les vies des plus excellents » et l'insistance est tout à fait significative et donc je la maintiens, même si ce n'est pas tout à fait correct de s'exprimer ainsi, « Les vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes italiens depuis Cimabue jusqu'à notre temps ». On peut considérer que cet ouvrage, dont la première édition voit le jour à Florence en 1550, la seconde augmentée, amplifiée en 1568, est l'acte de naissance de l'histoire de l'art telle que nous la pratiquons encore aujourd'hui. C'est donc une discipline relativement récente. En fait, elle a quand même un précédent dans l'Antiquité. Et ce précédent, de manière un peu inattendue, on le trouve dans l'ouvrage d'un encyclopédiste, Pline l'Ancien, auteur d'une vaste encyclopédie des sciences naturelles en 37 livres. Nous sommes là au 1er siècle après Jésus-Christ. Et dans cette histoire naturelle, Pline l'Ancien, ce livre a de longues digressions où il évoque les grands peintres et les grands sculpteurs de l'Antiquité grecque et romaine dans une moindre mesure. C'est en fait là, chez Pline, dans les chapitres de l'histoire naturelle où, de digression en digression, il évoque les artistes de l'Antiquité, c'est là que nous trouvons toutes les sources dont nous disposons concernant les grands artistes de l'Antiquité, parfois des artistes dont les œuvres ont disparu. Le célèbre Apel, le célèbre Zeuxis, des peintres dont on a retenu les noms, eh bien on les connaît parce que Pline nous en parle. Et à la Renaissance, dans un contexte de redécouverte de la culture antique, Giorgio Vasari, qui était un architecte, un peintre et un théoricien, va s'inspirer de la démarche de Pline dans cet ouvrage qui, cette fois, sera vraiment centré sur l'art et sur les artistes. Et donc, je vous l'ai dit, ce faisant, il jette les bases de l'histoire de l'art telle que nous la pratiquons encore aujourd'hui, l'histoire de l'art dont il va profondément définir les enjeux et influencer les méthodes. Sa démarche, eh bien, elle consiste à s'intéresser aux plus grands artistes, le titre est éloquent, et à recenser toutes les informations concernant leur vie, leur personnalité et leurs œuvres. Et en fait, Vasari s'est livré à une véritable démarche d'enquête, comme nous en entreprenons encore aujourd'hui quand nous voulons nous documenter sur quelque chose, ou dans le domaine des sciences historiques, quand nous enquêtons sur le passé. Il a récolté partout où c'était possible des informations concernant l'art et les artistes. Alors pourquoi s'est-il livré à cette entreprise? Eh bien, il s'est livré à cette entreprise parce qu'il croyait que ces artistes étaient des gens importants, des gens dont l'histoire devait garder le souvenir. Ce qui nous semble aller de soi, mais ce qui, à l'époque, était une idée relativement nouvelle. En effet, auparavant, au Moyen-Âge, les artistes ne jouissaient pas d'un grand prestige. Ils étaient considérés en fait comme des travailleurs manuels dont l'activité relevait de ce qu'on appelait les arts mécaniques, artes mécaniques, c'est-à-dire des arts exigeant le travail des mains par opposition aux activités de l'esprit qui étaient les arts libéraux. Et le plus souvent, d'ailleurs, réfléchissez à ce que vous connaissez de l'art du Moyen-Âge. On connaît de grandes réalisations, mais on a très peu de noms d'artistes parce que ces artistes ne signaient pas leurs œuvres. Et les choses ont commencé à changer en Italie au début du XIVe siècle, en fait à la charnière entre le XIIIe et le XIVe siècle. Dès cette époque, certains artistes ont acquis une notoriété sans précédent, et notamment Cimabue, le premier artiste que Vasari mentionne dans son titre. Voici une œuvre sur laquelle je ne vais pas m'attarder. Nous sommes là à la charnière entre le XIIIe et le XIVe siècle, donc pas encore vraiment dans l'époque dont je veux vous parler. Plus célèbre et plus admiré encore que Cimabue, il y a son successeur, qui était aussi son élève, Giotto di Bondone, dont les poètes Dante, Boccace, Policien, Pétrarque font aussi l'éloge. Et par la suite, les artistes de la péninsule vont bénéficier d'une reconnaissance sans cesse croissante au XVe et surtout au XVIe siècle. Certains d'entre eux vont devenir de véritables vedettes, comme nous le dirions aujourd'hui, des personnages que tout le monde connaissait et que tout le monde admirait. Et ainsi s'est développée une émulation extrêmement fructueuse pour les beaux-arts. J'y reviendrai d'ailleurs. Et ainsi les Italiens se sont persuadés que dans ce domaine, leur suprématie était absolue. Et l'entreprise de Vasari est en fait mu par ce sentiment de fierté nationale. Comment se présente son ouvrage? Eh bien, suivant un schéma chronologique, Vasari fournit des notices biographiques sur les artistes qu'il considère comme importants, plus exactement ceux qu'il considère comme importants pour retracer une suite de progrès artistiques accomplis en Italie. Il conçoit en fait l'histoire de l'art comme une suite de progrès depuis l'époque de Cimabue jusqu'à l'époque où il vit lui-même. Alors je vous montre ici quelques portraits des artistes qui ouvrent les biographies qui leur sont consacrées dans l'ouvrage de Vasari dans l'édition de 1568. Évidemment, ce sont quelques artistes parmi tous ceux que Vasari évoque. Notre conception de l'histoire de l'art est, je vous l'ai dit, largement redevable à Vasari. Elle l'est aussi en ce qu'elle admet la notion donc d'un renouveau qui se serait produit en Italie à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe, c'est-à-dire en fait en pleine époque gothique avec Cimabue et plus encore avec Giotto. Mais par la suite, au milieu du XIVe siècle, en conséquence à un événement qui va profondément ébranler l'Europe à cette époque, la grande épidémie de peste, la fameuse peste noire, la fameuse peste qui atteint son point le plus critique en 1348, eh bien on va voir se produire une récession sur le plan économique et culturel. Et donc cet essor artistique et culturel que Vasari avait commencé à caractériser et qu'il situait, à juste titre, au début du XIVe siècle, eh bien cet essor est interrompu brutalement, de sorte que la mutation observée au début du XIVe siècle ne devient vraiment effective qu'au début du XVe siècle. Et à cette époque, au début du XVe siècle, une proportion importante d'intellectuels et d'artistes italiens se dégagent consciemment des traditions du Moyen-Âge pour élaborer une culture nouvelle fondée sur l'héritage de l'Antiquité. C'est ce qu'on a appelé la Renaissance, dont on peut observer le déroulement au XVe et au XVIe siècle. Il convient de s'arrêter quelque peu sur la notion de Renaissance. Ce mot, dont le sens paraît clair à tout le monde, prête pourtant à des malentendus, voire à des contre-vérités. Il faut noter d'abord que c'est un vocable tardif. Il a été utilisé pour la première fois par l'historien Jules Michelet au XIXe siècle, en 1855. Il n'en correspond pas moins à une réalité bien attestée à l'époque dont nous allons parler. Une époque qui se caractérise en effet par une volonté insistante de rompre avec un passé que l'on qualifie désormais de barbare. Le passé médiéval, on le qualifie de barbare, et le but est de restaurer les usages, les arts et les lettres tels qu'ils étaient pratiqués dans l'Antiquité. On n'utilise donc pas le mot Renaissance, on utilise plus souvent le mot latin de rénovatio, que vous comprenez tous évidemment, et en gros le sens est le même. Alors des intellectuels vont, vous le savez, se passionner pour les lettres antiques, pour la langue latine, ainsi que pour la langue grecque dans une moindre mesure. Ces humanistes, comme on les appelle, ont le souci de restituer les textes de l'Antiquité dans leur authenticité, dans leur pureté originelle, et ils inventent pour ce faire la critique textuelle et la philologie. Donc vous voyez une série de disciplines qui sont encore très importantes aujourd'hui, qui apparaissent en fait à l'époque dont je vous parle. Je vous ai parlé de l'histoire de l'art, la critique textuelle, la philologie. Alors ces humanistes se signalent aussi pour avoir, et c'est important pour notre propos, ils se signalent pour avoir manifesté autant d'intérêt aux auteurs dits païens de l'Antiquité qu'aux auteurs chrétiens, même s'ils restent profondément imprégnés de religion chrétienne. Et ici, quand même, une petite mise au point, c'est bien à tort que les athées modernes perçoivent les humanistes comme leurs précurseurs. Les humanistes s'intéressent aux lettres profanes, ce qu'on appelle les lettres païennes dans l'Antiquité, mais il n'en reste pas moins profondément chrétien. Alors à cet effort de résurrection des lettres grecques et surtout latines, s'ajoute la fascination que les artistes et les humanistes éprouvent pour les monuments antiques qui sont visibles sur le sol italien. Ces monuments antiques sont désormais étudiés avec ferveur et vont devenir des modèles pour l'art contemporain. Ici, je vous montre le portrait d'un artiste du Nord qui a eu la chance, ce n'était pas encore courant au début du XVIe siècle, d'effectuer un voyage en Italie et qui, de retour dans le Grand Nord, dans son pays natal, se représente devant un monument dont il montre qu'il a eu l'occasion de l'étudier en réalité in situ. Alors, je vous l'ai dit, je vais essayer de faire quand même un petit panorama très schématique en guise de rappel. Et je vais commencer par évoquer le contexte politique très brièvement, simplement pour vous rappeler que l'Italie, à cette époque, n'est pas du tout un État unifié. Elle est morcelée en petits États indépendants qui sont en concurrence les uns vis-à-vis des autres. Et à partir de l'époque qui nous intéresse, la culture et les arts vont jouer un rôle important dans cette rivalité entre ces États. Alors, je vais commencer par évoquer le XVe siècle. Et au XVe siècle, eh bien, les grands centres d'essor artistique, quels sont-ils? Bien sûr, vous pensez tous à Florence, à la Toscane, hein, à juste titre. Mais il y a aussi Venise. Il faut aussi parler de Naples, de Milan et de petites villes qui, à nos yeux, sont aujourd'hui des villes de province, des petites villes provinciales, mais qui ont eu un essor lié à la présence de princes fastueux. C'est le cas de Ferrare, c'est le cas de Mantoue, c'est le cas d'Urbain. Je ne vous parle pas beaucoup de Rome dans un premier temps, quand j'évoque le XVe siècle, car en fait la grande époque de développement de Rome, ce sera plutôt le XVIe siècle, même s'il y a quand même quelques manifestations artistiques tout à fait significatives à Rome au XVe siècle. J'aurai l'occasion de les citer rapidement tout à l'heure. Alors, donc voilà ce panorama. En fait, je suis le schéma de Vasari qui distingue une première Renaissance qui est la Renaissance du XVe siècle, du Quattrocento, c'est-à-dire les années 1400 et suivantes, et qui est une phase en quelque sorte d'élaboration, d'expérimentation, de maturation progressive, avec de grands chefs-d'œuvre, avec de grands artistes qui sont les auteurs de ces chefs-d'œuvre. Donc c'est ici que je vais adopter un tour un peu énumératif et schématique, en espérant que dans une large mesure, j'évoque des choses que vous connaissez déjà, le but étant simplement de les remettre en place. Alors par exemple, dans le domaine de l'architecture, au Quattrocento, eh bien, je crois qu'il faut commencer par évoquer Filippo Brunelleschi, un architecte qui est actif à Florence. Je ne peux pas évoquer même schématiquement l'ensemble de son œuvre, mais ses titres de gloire, c'est notamment d'avoir édifié le dôme de la cathédrale de Florence. Je vous montre aussi l'intérieur d'une chapelle d'une église de Florence, tout à fait caractéristique de son style. Et puis l'autre grand architecte, si je simplifie vraiment les choses, en Italie au XVe siècle, c'est Leone Battista Alberti, qui a travaillé à Florence, mais pas seulement à Florence, qui a en quelque sorte contribué à la diffusion d'un style qui était apparu à Florence dans d'autres régions d'Italie. Alors à Florence, on lui doit la façade très séduisante de l'église Santa Maria Novella, et à Mantoue, Alberti a réalisé l'église Sant'Andrea. Alors quand vous voyez l'intérieur de la chapelle des Pazzi de Brunelleschi ou la façade de l'église Sant'Andrea de Mantoue de Alberti, eh bien, vous pouvez imaginer l'impression que les contemporains ont eue, que l'Antiquité était vraiment ressuscitée et que désormais les sanctuaires ressemblaient à ces temples de l'Antiquité. Dans le domaine de la sculpture, les grands noms sont ceux de Lorenzo Ghiberti, qui est l'auteur des fameuses portes du baptistère de la cathédrale de Florence. Je vais avoir l'occasion d'y revenir. Donatello, autre grand sculpteur, actif à Florence, mais aussi, tout comme Alberti, dans d'autres villes et contribuant par là même à la diffusion du style florentin. C'est à lui qu'on doit cette statue équestre d'un condottiere, c'est-à-dire un chef de mercenaires, donc un personnage qu'il s'agissait de glorifier, en fait, hein, un personnage célèbre pour ses victoires militaires, qu'il s'agissait de mettre à l'honneur. Luca della Robbia, j'envisage toujours les choses dans un style plus ou moins chronologique, en progressant du début vers la fin du XVe siècle. Luca della Robbia, qui est surtout célèbre pour ses sculptures en terre cuite vernissée, très séduisante évidemment. Et enfin, Andrea del Verrocchio, qui est le grand artiste de la fin du XVe siècle à Florence, qui dirige un un atelier non seulement de sculpture, mais aussi de peinture. Et ses compétences sont, on peut aussi le dire, celles d'un ingénieur. Et ce Verrocchio, qui est vraiment le grand artiste en vue à la fin du XVe siècle à Florence, sera celui qui va accueillir Léonard de Vinci dans son atelier. Je vous montre un groupe sculpté. Parmi ses autres réalisations, j'aurai dans le courant de mon exposé l'occasion de vous montrer d'autres œuvres. Dans le domaine de la peinture, toujours au Quattrocento, toujours durant cette première Renaissance, eh bien, il faut commencer avec l'activité, en évoquant l'activité d'un artiste qui fut vraiment révolutionnaire au cours de sa brève existence. Vous voyez qu'il meurt à l'âge de 27 ans, mais il a vraiment l'occasion d'introduire une sorte de révolution drastique dans les traditions picturales de l'époque et de renouer avec un style qui évoque un peu celui de Giotto. Donc après, en fait, cette période critique que j'évoquais tout à l'heure dans le courant du XIVe siècle, d'une certaine manière, les nouveautés que Giotto avait introduites dans peinture au début du XIVe siècle, eh bien, en gros, on les voit réapparaître, métamorphosées bien sûr, mais réapparaître dans l'art de Tommaso Masaccio. Pour ceux qui connaissent Florence, il est l'auteur des fresques fameuses d'une chapelle de l'église Santa Maria del Carmine. Plus ou moins à la même époque, on a l'activité de Fra Angelico, que tout le monde connaît, je pense, hein, un artiste qui était aussi un religieux, qui a eu une activité de peintre très importante en tant que peintre spécialisé dans la production de peintures de chevalet, mais aussi en tant que fresquiste. Vous le voyez, avec Tommaso Masaccio, avec Fra Angelico, on a affaire à des artistes qui pratiquent la fresque, l'art de la fresque, qui est très en faveur en Italie à cette époque-là, et d'ailleurs qui va rester en faveur en Italie pendant très longtemps. Et en fait, Fra Angelico, dont je viens de vous dire qu'il était un religieux appartenant à l'ordre des Dominicains, eh bien, parmi ses grands chefs-d'œuvre, on peut mentionner la décoration qu'il a assurée lui-même avec l'aide de son atelier du couvent dans lequel il vivait à Florence, qui était le couvent de San Marco, dont les couloirs présentent des murs ainsi décorés de fresques de Fra Angelico. Les cellules des moines aussi sont décorées de ces fresques tout à fait remarquables. Paolo Uccello, plus ou moins à la même époque aussi, auteur d'une série de scènes de bataille commémorant des victoires des Florentins sur une ville voisine. Dans les grands noms, il faut évidemment aussi citer celui de Piero della Francesca, qui n'est pas un Florentin mais qui est un Toscan, qui fera un séjour à Florence et qui travaillera pour l'essentiel dans sa contrée natale. Nous sommes à Arezzo et dans les environs d'Arezzo. Et l'un des grands chefs-d'œuvre de Piero della Francesca, c'est précisément la décoration, encore à la fresque, du chœur d'une église d'Arezzo, l'église Saint-François. Parmi les grands noms encore, un artiste sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, Benozzo Gozzoli, qu'on connaît surtout pour la décoration qu'il a réalisée de la chapelle d'un édifice important à Florence. C'était le palais des Médicis. Ça en dit long évidemment sur le prestige de cet artiste, le fait qu'il se soit vu passer la commande de la décoration de cette chapelle. Et enfin, bien sûr, on ne peut pas évoquer l'art du Quattrocento sans évoquer Sandro Botticelli. Vous voyez qu'on a avancé dans le temps. Nous sommes là dans la seconde moitié du XVe siècle à Florence. Et je crois que vous connaissez tous déjà les œuvres de Botticelli, notamment Le Printemps. Nous sommes centrés sur la Toscane. Mais, je vous l'ai dit, d'autres centres sont des centres qui voient un grand essor artistique. Et notamment, il y a Mantoue, où est en activité Andrea Mantegna, autre tout grand nom du Quattrocento, qui réalise des décors pour le palais des duc de Mantoue. Ils sont encore des marquis à cette époque. En fait, ils obtiendront le titre de duc un peu plus tard. Et dans la salle du palais, de ce qui est devenu le palais ducal, il y a une chambre qui est dite la chambre des époux, qui est entièrement décorée à la fresque, avec un décor illusionniste par Andrea Mantegna. Je vous ai parlé de Naples, en fait, dans le sud de l'Italie, à Naples et aussi en Sicile, est en activité un peintre qui est vraiment très important, qui va jouer un rôle décisif dans l'évolution de l'art italien du XVe siècle, j'y reviendrai, c'est Antonello de Messine. Pour l'heure, je me contente de dessiner le cadre, hein, de vous donner des repères et une sorte de structure chronologique. Et donc, poursuivons notre voyage. Nous sommes partis de la Toscane, nous sommes allés à Mantoue, dans le sud de l'Italie. Il y a encore Venise, évidemment, qu'il faut mentionner. Et l'essor pictural de Venise se situe un petit peu plus tard. Nous sommes dans la seconde moitié du XVe siècle, avec des grands noms. Je n'en cite que deux, mais je pourrais en citer d'autres en réalité. Les plus grands noms, s'il faut en retenir deux, sont ceux de Giovanni Bellini et Vittore Carpaccio. Vous voyez que là, on empiète déjà un tout petit peu sur le XVIe siècle. Avançons dans le temps. Le Cinquecento, les années 1500 et suivantes, le XVIe siècle, sont ce qu'on a appelé la haute renaissance, en se conformant en fait à cette vision des choses que donne Vasari, qui, comme je vous l'ai dit, tend à démontrer qu'il y a une sorte de progrès continu qui aboutit en fait à une sorte d'apogée à l'époque dans laquelle il se situe lui-même. Et dans un premier temps, effectivement, on a cette sensation d'un point d'apogée qui se situe dans le premier tiers du XVIe siècle. On parlera de la phase classique pour caractériser en quelque sorte l'aboutissement des recherches antérieures dans des manifestations artistiques qui sont considérées comme les plus incroyablement parfaites qu'on puisse imaginer, et avec des artistes dont on pense qu'ils sont de véritables génies. Et ce n'est pas une lecture que nous faisons a posteriori, c'est déjà comme ça que Vasari présente les choses, et on a toute une série de témoignages concordants pour montrer qu'on a vraiment ce sentiment en Italie, au début du XVIe siècle, avec ces artistes, d'être arrivés à un niveau de perfection. Quels sont ces artistes? Eh bien, évidemment, Léonard de Vinci, Michel-Ange, dont je pourrais vous parler en tant que sculpteur, en tant que peintre et en tant qu'architecte, car il fut tout cela à la fois. Je n'aurai pas le temps de le faire, hein, je dois tout de suite vous en avertir, mais je vais essayer d'évoquer quand même quelques aspects intéressants des œuvres de ces artistes. Donc Léonard de Vinci, Michel-Ange, et bien sûr, pour clôturer en fait cette triade glorieuse, Raphaël, qui fut essentiellement peintre, qui eut quand même aussi une activité d'architecte un peu moins connue. Et dans le domaine de l'architecture précisément, même si on a toujours tendance à raisonner sur un mode ternaire et à parler de la triade glorieuse, hein, Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël, il y a quand même un quatrième nom qu'il faut citer dans le domaine de l'architecture, car on peut vraiment dire que c'est la contrepartie de ce qu'on fait les trois autres artistes dans le domaine de l'architecture. Cet architecte remarquable dont l'activité se situe toujours dans cette même période, c'est Donato Bramante. Pour ceux qui connaissent bien Rome, et on passe à Rome, là je vais y arriver dans un instant, eh bien Bramante est l'auteur de ce tout petit temple, mais qui donne vraiment l'impression d'être un temple de l'Antiquité, ce petit temple de San Pietro in Montorio, édifié sur le lieu présumé du martyr de Saint-Pierre. Évidemment, à Rome, c'était un lieu sacré entre tous. Alors, vous l'avez compris ici, nous sommes à Rome. Au XVIe siècle, les grandes villes d'art, eh bien, ça va être beaucoup Rome. Florence reste une ville particulièrement prolifique du point de vue artistique, et Venise également. Ce sont vraiment les trois centres en Italie où s'accomplit l'activité artistique la plus significative. Alors, si Rome passe au devant de la scène, c'est lié au mécénat de grands papes qui veulent se comporter comme les empereurs de l'Antiquité. S'il ne faut citer que deux noms, ce sont les noms de ces deux papes, portraiturés par Raphaël, Jules II d'une part et Léon X d'autre part, qui ont été des mécènes absolument extraordinaires pour les artistes que je viens d'évoquer, à l'exception de Léonard de Vinci, qui travaillera dans le nord de l'Italie et puis, comme vous le savez, qui terminera sa vie en France. Mais pour ce qui concerne Michel-Ange et Raphaël, ainsi que Bramante, il faut parler de Jules II et ou de Léon X, suivant les cas. Et en fait, Pourquoi suis-je en train d'insister sur le mécénat assuré par ces papes-là ? Eh bien, parce que à leur initiative s'ouvrent des chantiers gigantesques qui vont être pourvoyeurs de commandes artistiques. Par exemple, parmi ces chantiers, eh bien, il faut parler des palais du Vatican. Des palais du Vatican qui consistent en fait à assurer une liaison entre le palais qui se trouvait au niveau de Saint-Pierre et la villa des papes qui se trouvait sur la colline du Vatican. Et c'est Bramante qui va se voir confier le soin de réaliser ce grand complexe palatial articulé autour de deux cours et qui prétend vraiment imiter les grands palais de l'Antiquité, c'est ainsi qu'on se les représentait, avec ces cours immenses dans lesquelles on pouvait organiser des spectacles, y compris des spectacles nautiques, parce qu'on pouvait en inonder l'une d'elles, ces cours aussi qui servaient de musée en plein air. Et non seulement Bramante donc est mis à contribution pour édifier ce palais du Vatican, mais il s'agit aussi d'en décorer les salles intérieures. Alors la décoration des salles intérieures, des appartements pontificaux, eh bien, elle avait déjà été entreprise dans les appartements pontificaux du XVe siècle, mais c'est avec une grande commande passée par Jules II qu'on peut vraiment dire qu'on entre dans la haute Renaissance. Jules II s'adresse à Raphaël pour décorer ses propres appartements et ce sont ces fameuses chambres que tout le monde va visiter au Vatican, l'une d'elles comprenant cette peinture qui résume pratiquement à elle seule la Renaissance italienne, la fameuse école d'Athènes. Grand chantier à l'initiative des papes, eh bien évidemment il y a aussi le chantier de la chapelle Sixtine, dont la construction remonte au XVe siècle, dont le début de la décoration remonte aussi au XVe siècle. En fait, les murs latéraux de la chapelle Sixtine ont été peints à la fresque par des grands artistes du Quattrocento. Par exemple, le Pérugin, dont je ne vous ai pas cité le nom, qui fut le maître de Raphaël, Botticelli, Piero di Cosimo, quelques artistes du Quattrocento. Mais ce qui retient plus encore l'attention, c'est bien sûr la décoration de la voûte que Jules II va confier à Michel-Ange. Cette voûte impressionnante par ses dimensions, à laquelle Michel-Ange va consacrer 4 années de sa vie. Et puis bien plus tard, Michel-Ange se verra encore appelé à travailler à la Sixtine et il s'agira cette fois de réaliser la décoration à la fresque encore, celle du mur du fond sur le thème du jugement dernier. Et enfin, dans ces grands chantiers qui font que toute l'effervescence artistique semble se concentrer à Rome, ce n'est pas tout à fait vrai, mais on comprend évidemment l'importance que Rome a prise dans ces grands chantiers. Il y a aussi la basilique Saint-Pierre, une basilique paléochrétienne, qui remontait à l'époque paléochrétienne et qui menaçait ruine au XVe siècle, et dont Jules II décide qu'elle doit être reconstruite de fond en comble. Et celui qui devait être le grand architecte de la basilique Saint-Pierre, c'était Bramante. Mais Bramante est mort avant d'avoir pu mettre à exécution un plan génial qu'il avait conçu, qui était un plan central. Un plan central, c'est-à-dire qui peut être enfermé dans un cercle, et qui était génial, pourquoi ? Parce que c'était d'abord une forme géométrique considérée comme plus parfaite que le plan tout en longueur traditionnel des églises de la chrétienté, et donc ça parlait plus à, aux amateurs d'art de la Renaissance, épris d'une harmonie géométrique, mais aussi un édifice central, parce qu'il magnifie un centre, et d'une certaine manière, c'est une métaphore du centre de la chrétienté. Donc Bramante avait eu cette idée géniale, mais n'a pas pu la concrétiser parce qu'il est mort en 1513, si mes souvenirs sont exacts, et Jules II va le suivre immédiatement. J'inverse peut-être les dates, 1513, 1514. Et alors le chantier de Saint-Pierre va connaître diverses vicissitudes, va être confié à plusieurs artistes successivement, qui vont revenir à une formule plus traditionnelle de plan basilical, tout en longueur, plus conforme aux traditions en vigueur dans la chrétienté occidentale, et les choses n'avancent pas beaucoup, et les choses avancent d'autant moins que en 1527 se produit un événement majeur et catastrophique. Vous le savez sans doute, c'est la mise à sac de Rome par les troupes de Charles Quint. La ville est dévastée et c'est évidemment une période où le chantier est interrompu. Et c'est à la suite de cette interruption que Michel-Ange va se voir confier le soin de construire, eh bien, de construire cette coupole gigantesque qui marque d'une empreinte définitive la physionomie de la ville pour nous encore aujourd'hui. Et Michel-Ange a bien perçu le caractère génial de l'idée que Bramante avait eue au début du siècle, et il en revient à une formule de plan central. En réalité, l'histoire ne se termine pas là, car au début du XVIIe siècle, un architecte va prolonger en fait la nef de manière à faire de ce plan central tout à fait génial un plan basilical, mais ça c'est une autre histoire qui ne relève pas de mon propos aujourd'hui. Donc ce sur quoi je veux insister, c'est sur cette effervescence liée à l'ouverture des grands chantiers romains dès le début du XVIe siècle. Je vous parle de Rome, mais ici encore, si je parle du XVIe siècle, je dois parler d'autres artistes, en commençant à Venise. Je dois vous parler de Venise, bien sûr, et en commençant à Venise, avec un artiste qui se situe sur la charnière entre le XVe et le XVIe siècle, mais que je situe ici parce qu'il a eu un impact très fort sur l'art du XVIe siècle. Ce peintre, c'est Giorgione, et il fut le maître du Titien, artiste majeur. Quand on parle des grands génies du XVIe siècle, on parle de ces trois artistes, Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël, mais on ajoute souvent aussi le Titien, et non seulement nous, mais déjà à cette époque, c'était vraiment les références majeures. Évidemment, je parle de Giorgione ici parce que vous voyez la filiation avec le Titien qui donc fut son élève. Autre centre aussi, Parme, où est en activité le Corrège. Voilà encore un artiste séduisant qu'on a tendance à oublier, mais qui est un artiste qui s'inscrit merveilleusement dans cette phase considérée un peu comme le sommet en fait de l'art de la Renaissance. Et enfin, plus tard dans le temps, un artiste reste attaché à cette esthétique qui est l'esthétique classique du premier tiers du XVIe siècle, c'est Véronèse. Nous sommes donc toujours à Venise et on peut encore mentionner comme prolongement, en fait, un peu plus tardif, de cet art caractérisé par l'harmonie, par la sérénité, par quelque chose de très positif en fait. On retrouve ces caractéristiques-là tardivement chez Véronèse. Mais entre-temps, Il faut dire qu'à partir, en gros, du second tiers du XVIe siècle, on voit s'implanter autre chose dans l'art italien du Cinquecento, et cette autre chose, on le range sous l'étiquette de maniérisme. Alors, il est vraiment difficile d'évoquer en quelques mots le maniérisme. Ce que je puis dire, c'est que on entre dans une période qui est une période difficile pour les artistes. Il faut imaginer que tout le monde a conscience qu'un sommet a été atteint, qu'un état de perfection a été atteint. Et donc les artistes qui vont s'inscrire à la suite de ces artistes géniaux dont je viens de vous parler, eh bien, il leur est difficile, en fait, de se positionner. Et pourtant, ils vont le faire de manière absolument remarquable et intéressante. Mais on sent qu'il y a quelque chose de moins jaillissant, de moins naturel, une recherche qui est parfois un peu plus laborieuse et surtout plus inquiète chez ces artistes. Une sorte d'expression d'un tourment qui s'explique aussi par le fait qu'on entre dans une autre phase pour ce qui concerne l'histoire de la civilisation de la Renaissance de manière plus générale. Autant le premier tiers du XVIe siècle a été une période d'optimisme, c'est le fameux optimisme de la Renaissance, autant à la fin de la période, on entre dans une période beaucoup plus problématique, dans un contexte beaucoup plus problématique, qui est marqué par une sorte de crise de confiance dans les structures, dans tout ce qui représente l'autorité. L'autorité religieuse, évidemment, fortement, violemment mise en question par les protestants, et puis par ailleurs aussi un indice fragilité des structures qui représentent l'autorité, et bien ce fameux sac de Rome de 1527, la ville qui est le cœur de la chrétienté, mise à sac pendant 3 jours par les troupes de Charles Quint. Pour imaginer le traumatisme que ça produit dans les esprits, je crois que nous ne sommes pas trop mal placés. Nous pouvons évoquer un phénomène semblable à celui que nous avons connu le 11 septembre. Le fait qu'on ait osé porter un geste aussi violent contre ce qui représentait une sorte de pouvoir absolu, c'est comme ça que nous l'avons vécu, et bien c'est probablement à l'époque comme ça qu'on a vécu le fait que les représentants d'un pouvoir civil osent ainsi s'attaquer au cœur de la chrétienté, au centre de la chrétienté, à la ville qui avait été celle de Saint-Pierre. C'est le geste sacrilège par excellence, et c'est ce qui amène à penser qu'en définitive, aucune structure n'est bien solide. Et donc on entre dans un contexte tout à fait différent. Il me faudrait vraiment beaucoup de temps pour vous en parler, je ne peux pas le faire ici, mais j'ai choisi 2 images pour vous montrer l'évolution de l'art. Le classicisme que je viens d'évoquer, qui est tout empreint d'harmonie sereine, qui est à l'image en fait de cette phase optimiste où on a l'impression d'être arrivé à une sorte de sommet, et on a de bonnes raisons évidemment de présenter les choses comme cela. Et puis cet art extrêmement intéressant qui est le maniérisme, qui est un art de la sophistication formelle au départ des modèles classiques, mais avec la recherche d'aller plus loin dans l'expression, d'entrer en fait un peu en concurrence avec ses grands maîtres, et on le sent, une expression tourmentée. Alors je vous montre quelques images représentatives de ce maniérisme aux multiples facettes dont on pourrait parler pendant des heures également. Dans le domaine de l'architecture, le grand architecte maniériste, c'est Palladio à Venise et en Vénétie. Voyez par exemple la façade d'une de ces églises célèbres. C'est une façade qui évoque un temple grec, ou plus exactement la structure attendue d'un temple grec avec des colonnes qui soutiennent un fronton. Mais en fait, vous voyez qu'il y a 2 structures comme celle-là qui semblent se superposer. Et avec Palladio, on a perdu en fait cette simplicité attendue qui était celle du classicisme. Il y a quelque chose de plus compliqué, de plus sophistiqué, qui ne se donne pas au premier abord. On ne comprend pas vraiment bien comment les éléments constitutifs de cette façade s'articulent. Il y a une recherche de sophistication formelle. Cette recherche de sophistication formelle est l'expression d'un tourment. On les retrouve aussi dans un autre monument majeur du maniérisme, qui est le palais du thé à Mantoue de Giulio Romano. Vous voyez, avec ces frontons qui n'ont pas de partie inférieure horizontale et donc qui, en quelque sorte, donnent l'impression de perdre leur contenu, comme si le monument se disloquait. Et cette impression est renforcée aussi au niveau des entablements. Alors, ce qu'on appelle l'entablement, c'est la partie supérieure ici, en fait, qui couronne le bâtiment. Je ne peux pas entrer dans le détail, qui, vous voyez, est rythmée par des petits carrés et puis par des petites rainures disposées 3 par 3, qu'on appelle des triglyphes. Et vous voyez qu'à intervalles réguliers, ces parties rainurées, eh bien, elles donnent l'impression de glisser, en fait. Et donc, ce qui doit être une sorte de structure forte dans l'édifice donne l'impression de se disloquer. Ce sont à la fois des recherches de sophistication formelle extrême, mais aussi quelque chose qui produit un malaise, une insécurité. Nous sommes loin, évidemment, de cette impression d'équilibre et d'harmonie sereine que communique l'art classique de la Renaissance. Dans le domaine de la sculpture, eh bien, un grand nom, ce sera celui de Giambologna, que normalement vous devez connaître à Mons, parce qu'il est l'élève d'une de nos gloire nationale, si vous le permettez, je m'associe dans les éloges au Montois pour évoquer Jacques Dubreuc. En fait, Giambologna, qui va faire une carrière très remarquable à Florence, où il va travailler pour les ducs, les grands ducs de Toscane, est l'élève de Jacques Dubreuc et c'est l'artiste maniériste par excellence. Je vous montre 2 œuvres tout à fait représentatives de son art. D'une part, ce très célèbre Mercure volant. Alors la Renaissance, la Renaissance classique communique dans les œuvres qu'elle produit une impression de stabilité. Ici, au contraire, on a une impression d'affranchissement par rapport à la pesanteur, justement par rapport à cette stabilité rassurante. C'est aussi une recherche d'une sophistication formelle extraordinaire, une œuvre qui invite à ce qu'on tourne autour d'elle pour l'apprécier et aucun point de vue ne s'impose par rapport à un autre. En fait, elle peut être envisagée selon de multiples points de vue. C'est un nouveau principe en fait qui s'installe dans l'appréciation artistique. Et alors, autre œuvre tout à fait extraordinaire de Giambologna, cette statue de l'Apennin, sous la forme d'un rocher gigantesque en fait, donc une allégorie, mais qui marque, qui se développe à l'échelle de tout un paysage. Autres images fortes du maniérisme qui vous permettent de visualiser un peu ce dont il peut s'agir à travers quelques repères. Eh bien, Giulio Romano, cet architecte du Palais du Thé à Mantoue, en a aussi décoré une salle. Une salle, en fait, sur le thème du cataclysme, en fait. C'est un épisode mythologique qui représente la chute des géants depuis les sommets de l'Olympe. Et en fait, cette fresque court sur tous les murs d'une salle du Palais du Thé. Vous en voyez un détail, vous voyez ces géants qui sont écrasés par des éboulements rocheux. En fait, Giulio Romano, ici, se mesure à Michel-Ange, mais en portant encore bien plus loin, en fait, les caractéristiques qui sont celles de Michel-Ange. Donc, il y a vraiment ce positionnement par rapport aux artistes de la Renaissance, mais cette volonté d'aller encore plus loin jusqu'à l'outrance. Et cette outrance peut être une caractéristique cultivée par des artistes qui ne sont plus nécessairement toujours à la recherche du beau idéal. Ils le sont parfois, mais pas toujours. Voici encore un bel exemple. Le Pontormo, un artiste actif à Florence, où il a réalisé cette œuvre magnifique, peut-être un peu méconnue, dans une église que je vous recommande d'aller voir, Santa Felicita. C'est une représentation de la déposition de croix, avec ce chromatisme tout à fait caractéristique de l'école toscane, avec des couleurs assez éclatantes qu'on peut trouver chez Michel-Ange. Mais ici, ça communique quelque chose d'étrange, d'inattendu à une œuvre qui, normalement, représente un sujet dramatique. Le grand portraitiste maniériste à Florence, c'est Agnolo Bronzino, dont vous voyez une œuvre tout à fait caractéristique. C'est aussi un portrait qui donne une impression d'étrangeté, de fixité un peu inquiétante. En fait, il s'agit d'une œuvre qui est basée sur ce modèle qui va marquer profondément l'art du portrait au XVIe siècle, qui est la Joconde de Léonard, mais comparé l'effet produit. Donc on a en fait la même formule, la même manière de camper le personnage assis devant le spectateur, rencontrant le spectateur du regard, assis aussi à mi-corps, un personnage largement campé dans l'espace. Tout ça, ce sont les caractéristiques du portrait introduit par Léonard de Vinci avec la Joconde. Et d'une certaine manière, Bronzino reprend cette formule, mais en l'adaptant à d'autres fins. Et on est loin, en fait, de cette impression d'harmonie qu'on peut avoir face à la Joconde. Voici encore deux images tout à fait caractéristiques des recherches des artistes maniéristes à Parme. Un artiste d'ailleurs surnommé le Parmesan, qui représente une vierge à l'enfant. Ben, vous voyez que la composition est en équilibre instable, qu'il y a des jeux sur le rendu spatial avec des ruptures d'échelle très brutales. Tout ça, évidemment, à nouveau, nous emmène loin de l'idéal classique. Et c'est vrai aussi du grand peintre maniériste vénitien, le Tintoret, dont je vous montre un des chefs-d'œuvre. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'ici, on est loin de l'idéal classique. Alors, je vais à présent, après ce très trop rapide panorama, adopter quelques fils conducteurs. En fait, je vais faire quelques propositions de réflexion pour aborder l'art cette époque. Si vous le permettez, je jette un petit coup d'œil sur ma montre pour être sûre de ne pas vous retenir jusqu'à 10 heures, ce que j'aurais beaucoup de plaisir à faire, mais je suppose que pour vous, ce n'est pas envisageable. Et moi-même, je dois rentrer à Liège, de préférence, avant demain matin. Donc, qu'est-ce que je vais aborder comme proposition, en fait, qu'est-ce que je vais adopter comme proposition de réflexion? Eh bien, je vais envisager successivement les points que voilà, des nouvelles thématiques, de nouveaux sujets dans les arts figurés. Je vais parler rapidement du recours aux modèles antiques, si important dans l'art de la Renaissance. Je vais essayer d'expliquer en deux mots en quoi consiste la nouvelle esthétique de la Renaissance. Vous aurez compris qu'après ce Moyen-Âge dont je vous disais que c'était une période où l'artiste ne s'était pas vraiment affirmé, où l'artiste ne signait pas ses œuvres, n'était pas vraiment valorisé, on est entré ici brutalement et très rapidement dans une époque où on voit s'affirmer l'artiste conscient de son génie, conscient de son importance sociale. Un des facteurs qui a été propice pour cet essor artistique auquel on assiste, eh bien, c'est l'émulation, la compétition entre artistes. Et on va voir qu'il y aura différentes compétitions qui effectivement sont organisées en Italie au XVe et au XVIe siècle. De nouvelles techniques qui apparaissent dans l'art de cette époque, qui déterminent une physionomie tout à fait différente qu'il va avoir. Cela m'amènera à évoquer une opposition qui est ressentie comme telle entre la tradition toscane et la tradition vénitienne, très souvent, et ce, dès l'époque de Vasari, on résume les choses comme ça en ce qui concerne l'art italien du XVe et du XVIe siècle. Il y a d'une part les dessinateurs, ce sont les Toscans, d'autre part les coloristes et les peintres, ce sont les Vénitiens. Et je terminerai, ça ce sera ma conclusion, la Renaissance, l'âge de l'esthétisation de l'œuvre d'art, je m'en expliquerai pour finir. Nouvelle thématique d'abord, eh bien, la vocation qu'avaient les beaux-arts jusque-là, la vocation qui restait largement prédominante, c'était d'une part la production de portraits, d'autre part la production d'œuvres à caractère religieux qui répondaient aux besoins du culte, qui alimentaient, qui servaient de support de dévotion. Et en fait, ces registres d'expression artistique restent en vigueur, restent en faveur, sont très importants même à la Renaissance. Donc on continue bien sûr à produire des portraits comme de par le passé, on continue bien sûr à décorer des églises. Je vous ai montré tout à l'heure un détail de ce décor du cœur de l'église Saint-François d'Arezzo par Piero della Francesca. Des œuvres religieuses à la Renaissance, il y en a des tas, ça reste quand même le grand débouché pour les artistes. La Vierge au Rocher de Léonard de Vinci, c'est un retable au départ. Hein. C'est la peinture qui occupait le centre d'un retable. Et des retables, on continuera à en produire dans le courant du XVIe siècle. Et les débuts, les premières manifestations de la contre-offensive catholique, le Concile de Trente, qui est la contre-offensive catholique après les critiques que l'Église a dû essuyer de par la réforme protestante, le Concile de Trente se déroule entre 1545 et 1563. Et donc, c'est l'époque où le Titien est en activité, et en fait, dans le cadre de la contre-réforme, on va à nouveau pourvoir les églises d'un mobilier religieux. Le Titien va être un des peintres qui s'inscrivent dans cette dans cette tendance-là, dans ce phénomène-là, voilà un bel exemple, cette remarquable annonciation qui est vraiment une peinture qui permet déjà de deviner ce que sera la peinture de la contre-réforme. Donc, à la Renaissance, les registres d'expression artistique traditionnelle, que sont le portrait et l'art religieux, restent extrêmement importants. Je crois qu'il faut y insister, mais on voit apparaître de nouveaux sujets qui sont évidemment inspirés de l'Antiquité, inspirés notamment de la mythologie, de l'histoire aussi, mais dans une large mesure de la mythologie. Bien sûr, la naissance de Vénus, bien sûr, les noces de Bacchus et Ariane. Et enfin, quelque chose de plus subtil et de plus compliqué, qui suscite de la perplexité dans un premier temps, ce sont des peintures dont le sujet n'est pas facile à préciser et qui rendent compte seulement en fait de la fantaisie, de l'imagination, des rêves de l'artiste et qui ne correspondent pas à des iconographies traditionnelles. Et ainsi, on sait que Giorgione, avec ses peintures parfois un peu au sujet mystérieux, parfois un peu impénétrable, eh bien suscitait de la perplexité, mais aussi beaucoup d'intérêt, car on considérait que la valeur de sa peinture, eh bien c'était la poésie qui émanait du mystère de ce qu'elle représentait. Ainsi, la tempête de Giorgione, eh bien les exégètes modernes ont proposé des dizaines et des dizaines d'interprétations qui sont toutes intéressantes, mais on a l'impression qu'on n'épuise pas en fait le potentiel de suggestion de cette œuvre. Pourquoi ? Parce qu'on est sorti du registre des sujets traditionnels. Nouvelle thématique, donc, et même refus d'une thématique trop codée. Ce sont des grandes caractéristiques des arts figurés de la Renaissance en Italie. C'est important d'y insister parce que pour nous, ça paraît évident qu'un artiste peut traiter de n'importe quel sujet. Or, il faut savoir que des genres picturaux qui nous paraissent tout à fait banals, comme la peinture de paysage, la peinture de genre, c'est-à-dire la description de scènes de la vie de tous les jours, ou la nature morte, ce sont des genres tardifs qui sont apparus dans la peinture occidentale au XVIe et au XVIIe siècle seulement. Et donc, cet enrichissement de la thématique, c'est un phénomène qui ne fait ici que débuter et qui va se poursuivre dans la suite de l'histoire de l'art des temps modernes. Recours aux modèles antiques. On fait des trouvailles en Italie, évidemment, le sol italien et le sous-sol italien livrent des œuvres qui suscitent une grande fascination. On découvre par exemple ce groupe sculpté qui va avoir un impact très considérable, en fait, la représentation du Laocoon et de ses fils étouffés par un serpent. En fait, il s'agit d'un prêtre, d'Apollon et ses fils qui sont étouffés par un serpent. C'est une œuvre qui va frapper beaucoup les esprits, de la même manière que la découverte de la Domus Aurea, c'est-à-dire le palais de Néron, suscite un émerveillement pour les artistes, et on a de multiples témoignages du fait que les artistes s'introduisent en fait dans le palais pour aller en étudier les décors. On a des représentations d'artistes qui descendent, hein, qui se font descendre en fait par un orifice situé dans les parties hautes du palais et qui se font descendre et puis qui se font hisser pour sortir du palais. Entre-temps, ils ont pris une série de croquis et évidemment les décors qu'ils voient là-bas, ils vont pouvoir les transposer à leur tour quand ils se verront passer des commandes de décoration d'édifices contemporains. Et bien sûr, il y a ces monuments que tout le monde peut voir, apprécier et qu'on va se mettre à étudier avec passion. Alors, je vous montre des exemples de l'impact que ces découvertes ou redécouvertes des monuments antiques vont avoir sur les artistes de la Renaissance. Le Laocoon, on sait que Michel-Ange l'a trouvé absolument extraordinaire. Et en effet, il y a une parenté entre ce groupe sculpté qui donne l'impression d'une force prodigieuse, mais en même temps d'une force qui est soumise à une contrainte dont elle ne parvient pas à se dégager. C'est quelque chose qu'on va retrouver, qui est même fondamental dans l'esthétique de Michel-Ange. Vous voyez par exemple avec les esclaves rebelles, hein, je ne peux pas trouver de meilleurs exemples, mais je pourrais quand même trouver d'autres exemples pour vous montrer à quel point en fait ce concept d'une force qui ne parvient pas à s'exprimer complètement et qui définit en fait le groupe du Laocoon se retrouve chez Michel-Ange. Le Colisée, dont vous voyez ici un détail, eh bien, il montre en fait comment on peut gérer le vocabulaire architectural de l'Antiquité. Il permet d'ailleurs d'abord de bien le préciser, de voir comment les choses doivent s'articuler et de s'en inspirer. Et dans ce monument, ce grand monument du XVIe siècle romain, le Palais Farnèse, si vous êtes allé à Rome, vous l'avez tous vu, il y a une cour intérieure. Et dans cette cour, l'élévation des murs présente une succession d'ordres antiques, c'est-à-dire des colonnes qui supportent des entablements, en fait tout à fait respectueuses du vocabulaire architectural de l'Antiquité, respectueuses aussi des agencements canoniques, parce que, en fait, calquées sur le Colisée, qui présente un modèle de superposition de ces ordres. Je vous donne encore un petit exemple. Je vous ai dit que la chapelle Sixtine avait été décoré dès la fin du XVe siècle par de grands artistes du XVe siècle, déjà avant l'entrée en scène de Michel-Ange. Eh bien, Le Pérugin, qui est l'auteur d'une des peintures qui décore les murs latéraux, peinture importante à la remise des clés à Saint-Pierre dans la chapelle Sixtine, vous imaginez, donc c'est une des peintures majeures. Vous voyez qu'il a représenté la scène dans un décor qui donne aussi l'impression qu'il maîtrise parfaitement le vocabulaire de l'Antiquité. Il est capable en fait de concevoir un décor à l'antique. Et pour cause, voyez les arcs de triomphe qui se trouvent de part et d'autre de la composition. Ils sont évidemment inspirés de l'arc de Constantin qu'on peut voir à Rome. Une nouvelle esthétique que je vais essayer d'évoquer en quelques mots en me référant à celui qui l'a théorisé. Et je précise, ça me paraît important à ce sujet, que la Renaissance, c'est aussi l'époque du développement d'une réflexion théorique sur l'art. Ça nous paraît aussi évident aujourd'hui, mais ça ne va pas de soi. Il y en a eu dans l'Antiquité. Et puis cette démarche, on la voit à nouveau se développer à la Renaissance. Et s'il ne faut citer qu'un nom, c'est celui-là. Je voulais déjà citer en sa qualité d'architecte. En fait, Leone Battista Alberti a été bien plus qu'un architecte. Il a été un véritable humaniste, un véritable penseur. Il a beaucoup écrit, et entre autres des traités sur l'architecture et sur la peinture. Et son traité sur la peinture a eu un énorme impact. Et on peut dire qu'en quelque sorte, il explicite les fondements de cet art nouveau qui voit le jour à la Renaissance. J'ai choisi une phrase qui me paraît vraiment tout à fait significative de cette recherche qui définit l'art de la Renaissance. On parle du principe d'imitation sélective et voilà, on va s'en expliquer en se référant à Alberti lui-même. Prenons toujours dans la nature les choses que nous devons peindre et choisissons constamment en elles ce qu'il y a de plus beau. Donc il faut aller chercher ce qu'on va représenter dans la nature. Il ne s'agit pas de les inventer, il faut s'inspirer de la nature, il faut étudier la nature, mais choisissons constamment en elle ce qu'il y a de plus beau. Ce n'est pas n'importe quoi dans la nature, parce qu'il est très rare que même la nature ait la faculté de produire quelque chose qui soit absolument parfait à tous égards. Et donc, les artistes vont chercher dans la nature des modèles, mais vont chercher ici le plus bel aspect d'une caractéristique donnée, là, autre chose qui leur paraît absolument parfait, et vont ainsi introduire dans leur art à la fois cette crédibilité visuelle qui est désormais importante. L'art doit donner l'impression qu'il s'ancre dans la nature, dans la réalité, mais aussi un effort d'idéalisation. En quelque sorte, si vous avez quelques notions de philosophie, c'est à la fois Aristote et Platon. C'est à la fois l'observation du monde d'ici-bas et cet effort d'accès à quelque chose qui se situe au-delà, ce que Raphaël a si bien résumé précisément en représentant les figures d'Aristote et de Platon dans l'école d'Athènes. Aristote qui a la main tournée vers la terre ferme, et Platon qui a le doigt dirigé vers le ciel. Et c'est ainsi qu'on va avoir des œuvres qui, à la fois, sont d'une crédibilité visuelle totale, mais qui, en même temps, nous transportent dans un autre monde de par cette perfection qu'elles incarnent. Ainsi, cette Pietà de Michel-Ange à Saint-Pierre de Rome, qui est plus belle que ne pourrait l'être, évidemment, une femme âgée, éplorée, serrant contre elle le cadavre de son fils. Et d'autre part, ce corps devrait être le corps d'un homme supplicié, et il est d'une beauté athlétique absolument parfaite. Donc, il faut aller au-delà de ce que la nature a d'accidentel, de fortuit, d'imparfait, en travaillant sur la nature, mais en essayant de la transcender dans une recherche perfection. Et je peux vous donner des tas d'exemples, évidemment. Botticelli est allé loin dans cette recherche d'un beau parfait, d'autant que le platonisme, ou plus exactement le néoplatonisme, était très en faveur à Florence à l'époque où il était en activité, a eu beaucoup d'impact sur son art. Et on peut aussi évidemment utiliser cette clé explicative pour comprendre les recherches formelles auxquelles se livrent les artistes maniéristes. Alors, voilà, quelques beaux détails. Alors, s'ancrer quand même dans l'expérience sensible. Ça suppose que les artistes maîtrisent certaines techniques, et notamment celles qui permettent de représenter l'espace, et donc aussi les choses dans l'espace, de manière crédible. Et c'est ainsi dans cette recherche de représenter les choses telles qu'elles se présentent au regard d'un observateur que les artistes italiens vont mettre au point la perspective linéaire, qu'on appelle aussi perspective géométrique ou centrale. Et donc il s'agit, je lis avec vous la définition, de figurer l'espace et les éléments, surtout géométriques, qui s'y trouvent, tels qu'ils apparaissent au regard d'un spectateur immobile, c'est-à-dire évidemment avec une réduction progressive de la taille des objets suivant qu'ils s'éloignent de l'endroit où se trouve le spectateur. Et cela entraîne évidemment, vous le voyez sur le schéma, des déformations dans les volumes géométriques. C'est ça, en fait, c'est l'étude des conséquences de ce principe, en fait, que... C'est en cela que consiste la perspective linéaire. Et donc, tout est en quelque sorte régi par le regard d'un spectateur installé, un spectateur fictif installé en un point déterminé face à la représentation. Et toute la représentation est construite de manière, et c'est intéressant de mettre cela en relation avec l'individualisme de la Renaissance, tout est construit de manière à donner l'impression que la représentation s'ordonne sous le regard souverain du spectateur qui occupe une position centrale et tout est régi par le regard qu'il porte sur les choses. Et les artistes, dès le Quattrocento, vont se passionner en fait pour les conséquences et parfois les conséquences très complexes en fait hein, du principe de la perspective linéaire. Piero della Francesca va lui consacrer un traité à la perspective. Léonard de Vinci aussi hein, va beaucoup travailler sur la notion de perspective. Et on en arrive ainsi à des représentations comme celle-là d'une cité idéale hein, qui représente bien ce que je vous disais tout à l'heure, mais où on sent bien que tout est construit en fonction d'un spectateur installé en un point fixe, central, et que tout est régi en fonction de son regard. On a vraiment l'impression que le spectacle s'ordonne sous son regard souverain. Et cette perspective linéaire, elle va influer non seulement sur la peinture, mais aussi sur l'art du relief, comme vous le voyez ici, en haut chez Ghiberti. J'ai oublié de mettre le nom de l'artiste, c'est Ghiberti, j'aurai l'occasion de revenir. Vous voyez que cet édifice de plan central est représenté en perspective, le plan circulaire est représenté en perspective. Vous voyez qu'il y a cette fuite des lignes aussi à gauche, et aussi chez Donatello, dans cette œuvre où vous voyez que tout est construit selon les règles de la perspective linéaire, ce qui donne vraiment l'impression qu'on peut mentalement entrer dans la représentation. C'est un peu paradoxal, hein, dans l'art du relief, où les choses sont représentées de manière à sortir du plan vers le spectateur a l'impression d'être happé vers l'intérieur de l'œuvre. Autre recherche tout à fait symptomatique de cette volonté de s'ancrer dans le réel, l'étude du corps humain qu'on ne va plus représenter de manière approximative ou suggestive, vaguement suggestive comme on pouvait le faire au Moyen-Âge, mais qu'on veut représenter de manière crédible. Et il y a une fascination par ailleurs pour le corps nu qui est liée à la redécouverte de toutes les statues de l'Antiquité qui valorisent la beauté du corps nu. Donc il y a une fascination pour le rendu du corps nu sur le mode antique. Et il y a un intérêt, une volonté de le représenter de manière correcte, ce qui suppose des connaissances dans le domaine de l'anatomie. Et on voit dans les travaux des artistes qu'ils ont une connaissance très approfondie de l'anatomie humaine, qu'ils étudient de manière très systématique désormais. Et évidemment, je peux vous donner des foules d'exemples, aussi bien dans le Quattrocento que dans le Cinquecento, bien sûr, les fameux ignudi, personnages nus de la chapelle Sixtine due à Michel-Ange. Pour pouvoir ainsi connaître l'anatomie, les artistes se livrent à des études et ça peut aller très loin. Vous savez que Léonard de Vinci pratiquait la dissection des cadavres parce qu'il lui paraissait important de connaître parfaitement ce qu'il représentait. Et donc l'artiste, forcément, a une conception de plus en plus ambitieuse de sa démarche. Elle lui impose d'être en quelque sorte aussi un savant. Justement, l'affirmation de l'artiste. Je vous ai dit qu'au Moyen-Âge, on ne signait pas ses œuvres. À la Renaissance, on commence à le faire de plus en plus. Et non seulement l'artiste signe son œuvre de la façon qui nous paraît tout à fait habituelle, mais en plus, parfois, il va doubler sa signature par la représentation de sa propre effigie dans son œuvre. Ainsi, Ghiberti, qui se voit chargé de la réalisation de deux portes pour le baptistère de Florence, eh bien, introduit sa propre effigie sous la forme d'un médaillon sur les parties latérales de cette porte. De la même manière, des artistes vont introduire dans leurs œuvres différents portraits. C'est assez classique, il rend hommage aux personnages puissants et bien sûr aux commanditaires de leurs œuvres, mais ils introduisent aussi leurs propres portraits dans la peinture. C'est ce qu'on appelle des autoportraits in assistenza, dans l'assistance représentée dans la peinture. Voilà un bel exemple chez Botticelli. Je mets un point d'interrogation parce qu'on pense bien qu'il s'agit d'un autoportrait de Botticelli, mais on n'en est pas encore tout à fait sûr. C'est la même chose pour ce qui concerne l'école d'Athènes de Raphaël. On a l'impression que Platon est représenté sous les traits de Léonard de Vinci, Héraclite serait représenté sous les traits de Michel-Ange, donc ces grands artistes sont introduits dans la peinture de Raphaël, Bramante sous les traits d'Euclide, et Raphaël lui-même se portraiture, et cela donne un autoportrait dans l'assistance. Là, il n'y a pas de doute, c'est bien Raphaël. Autre exemple, Benozzo Gozzoli dans le décor de cette chapelle du palais Médicis à Florence dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez une vue générale à gauche, vous voyez un élément de ce décor. Le thème, c'est le cortège des rois mages. Et vous voyez que c'est le déploiement d'une procession somptueuse dans laquelle l'artiste a glissé de nombreux portraits et bien sûr les portraits des Médicis qui sont toujours à l'honneur, mais aussi son propre autoportrait. Et cette fois, il n'y a plus le moindre doute quant à l'identification, car sur son bonnet, on distingue, on reconnaît les mots « Opus Benotii », œuvre de Benozzo. En latin, l'artiste se targue d'être savant, et là, il n'y a plus de doute sur le fait qu'il s'agisse bien de Benozzo Gozzoli, et c'est bien le but qu'il poursuit, évidemment. La même chose pour ce qui concerne un artiste dont je ne vous ai pas cité le nom jusqu'à présent, Pinturicchio, qui, dans une représentation de l'Annonciation, eh bien, voyez à droite, il y a un petit panonceau. Et sur ce petit panonceau, il y a sa signature, à nouveau en latin, accompagné d'un autoportrait, et là évidemment il a tout fait pour qu'il n'y ait pas le moindre doute quant à son identification. Et les artistes sont de plus en plus conscients de l'importance qu'ils ont dans la société. Cela se traduit aussi par l'apparition d'autoportraits conçus comme tels, vraiment d'autoportraits tout à fait indépendants. C'est comme ça qu'on a un autoportrait de Raphaël, et c'est un usage qui va se poursuivre bien plus tard. On a un autoportrait de Titien, à vrai dire, on en a même plusieurs de Titien représentés alors qu'il est déjà relativement âgé. Alors, Titien était un artiste proche de Charles Quint, qui s'était fait remarquer par Charles Quint et par Philippe II, le fils de Charles Quint, qui avait beaucoup d'admiration pour lui. Et Charles Quint l'avait anobli, le Titien, et lui avait offert une chaîne d'or. C'est probablement ce que l'on voit sur le portrait. C'est vraiment l'artiste tout à fait conscient de son importance dans la société. Compétition, émulation, c'est une des clés pour comprendre cet essor extraordinaire auquel on assiste. Et ça commence tout de suite, dès le début du XVe siècle à Florence, avec un concours organisé en 1401 pour doter le baptistère de la cathédrale d'une nouvelle porte en bronze. Vous le voyez là, le baptistère de la cathédrale, je vous ai déjà montré une porte en bronze. C'est la corporation des lainiers de Florence, en fait, qui a la charge de l'entretien du baptistère, qui décide d'organiser ce concours pour confier la réalisation d'une porte à l'artiste qu'elle considérera comme le meilleur. Et elle décide de demander aux artistes qui sont candidats de réaliser un petit panneau sous la forme d'un quadrilobe, une forme à vrai dire encore gothique, qui est déterminée par la présence d'une autre porte qui existe déjà au baptistère et sur le modèle de laquelle on décide de se conformer. Et il s'agira de représenter le sacrifice d'Isaac par Abraham. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a conservé les deux plaques réalisées par les deux artistes qui restaient en lice après une première sélection. Plusieurs artistes se sont présentés. Et puis, il y a vraiment deux œuvres sur lesquelles les membres du jury ont hésité, ne sachant trop comment trancher. Je vous les montre. Vous avez une idée ? Nous pouvons vraiment nous mettre dans la peau hein, des membres du jury confrontés à ces deux œuvres qui sont toutes les deux remarquables. Mais il fallait en choisir une, et on en a choisi une pour finir. Les deux artistes qui sont restés en lice étaient d'une part Brunelleschi, qui n'était pas seulement un architecte, comme vous le voyez, mais aussi un sculpteur, et Ghiberti, dont je vous ai déjà parlé. Vous avez déjà deviné que c'est Ghiberti qui a gagné le concours. Alors, une des deux œuvres est celle de Ghiberti, qui a gagné le concours, et c'est en fait celle de droite. C'est intéressant, évidemment, hein, de pouvoir se mettre vraiment dans l'esprit du temps, ce qui a certainement dû plaire aux Florentins, aux membres du jury. Vous voyez le corps d'Isaac sur l'autel, ce beau corps d'athlète hein, qui évoque en fait la statuaire de l'Antiquité. Or là, nous sommes en 1401, ça devait vraiment paraître très nouveau. Et donc, voilà, un premier, oui, je dois quand même y insister, une première mise en concurrence des artistes dans le cadre d'une compétition qui est en fait la première compétition publique qui était organisée. Nous sommes habitués à ce concept, mais c'est la première qui ait été organisée au temps moderne. Et on a continué un peu plus tard quand il s'agissait de terminer en fait la cathédrale Santa Maria del Fiore qui était en chantier depuis le XIIIe siècle. Donc nous sommes à Florence évidemment, elle était en chantier depuis le XIIIe siècle et attendait encore un dôme. Et on a organisé un concours public afin que les architectes manifestent leur savoir-faire et leurs atouts et s'imposent sur leurs confrères. Et cette nouvelle compétition a été organisée un peu plus tard, en 1418, et c'est donc il s'agissait de réaliser le dôme qui venait couvrir ce vaste espace, et c'est Brunelleschi qui l'a remporté en se faisant fort de couvrir cet espace immense, 45 mètres de diamètre, d'une voûte sans recourir à des échafaudages, à des cintres, comme on le faisait traditionnellement en utilisant un procédé qui était en vigueur dans l'Antiquité. Je répondrai à des questions si vous voulez qu'on y revienne. Je n'ai pas vraiment le temps de m'y attarder ici. C'est une véritable prouesse d'ingénieur. Et donc, sur la base d'un concours. Donc, vraiment émulation, compétition entretenue entre les artistes. Voilà encore un bel exemple dans l'aménagement de cette cathédrale qui fait la fierté des Florentins. On décide de réaliser une tribune de chantre, ce qu'on appelle une cantoria. Et c'est Luca della Robbia, ce superbe sculpteur dont je vous ai cité le nom tout à l'heure, qui se charge de réaliser donc une tribune qu'on peut voir aujourd'hui au musée de l'œuvre de la cathédrale, avec comme thème la musique évidemment, la danse appropriée pour une tribune de chantre. Un peu plus tard, on décide de réaliser une autre tribune qui lui répondra et on fait appel à Donatello qui va se mettre au travail quelques années plus tard et donc qui va être mis en concurrence évidemment avec son collègue. Et aujourd'hui encore, voici d'abord quelques détails de cette œuvre de Donatello, qui est un artiste beaucoup plus vigoureux. Autant Luca della Robbia apprécie une beauté un peu suave, autant Donatello préfère une expression forte. Et donc c'est intéressant pour nous aujourd'hui, parce que nous pouvons procéder à une comparaison entre les deux œuvres, vous voyez, qui manifestent des tempéraments artistiques fort différents. Mais en fait, ces deux tempéraments, on a invité tout le monde à les comparer, on a exposé les artistes, évidemment, à confrontation alors qu'ils étaient en pleine activité. Et les exemples abondent. Par exemple, Paolo Uccello, un peintre dont je vous ai aussi cité le nom, qui est amené à réaliser le portrait équestre d'un condottiere dans la cathédrale Santa Maria del Fiore et qui le fait sous la forme d'un monument équestre parce que, dans l'imaginaire de cette époque, la formule du portrait équestre, c'est ce qu'il y a de plus prestigieux, c'est la formule qu'on utilisait pour mettre à l'honneur les empereurs de l'Antiquité. Et en fait, Paolo Uccello en tant que peintre, va se mettre lui-même en concurrence par rapport à l'art du sculpteur en réalisant un portrait équestre qui donne l'impression d'être une œuvre sculptée et montrant ainsi qu'en tant que peintre, il maîtrise aussi en quelque sorte cet autre registre d'expression qu'est la sculpture. Mais ce n'est pas fini. Un peu plus tard, Andrea del Castagno, toujours au même endroit, nous sommes en fait toujours à la cathédrale Santa Maria del Fiore, va à son tour être amené à réaliser un portrait équestre d'un condottiere face à celui de Paolo Uccello. Et puis, dès lors qu'on se dit, mais c'est vrai, c'est comme ça qu'on peut honorer et glorifier le mieux un personnage, comme dans l'Antiquité, mais des sculpteurs vont vouloir faire exactement comme dans l'Antiquité et Donatello sera amené à réaliser cette statue d'un condottiere, cette fois en trois dimensions, sous la forme d'un bronze, ressuscitant ainsi une technique qui est extrêmement compliquée, la technique de la fonte du bronze dite à la cire perdue sur une grande échelle, comme on le faisait dans l'Antiquité. C'est une véritable prouesse technique qu'il s'agissait d'accomplir. Et ce faisant, il se mesure évidemment aux grands artistes de l'Antiquité. Et pour le donateur, pour le commanditaire, c'est une manière évidemment de se comparer lui-même aux empereurs de l'Antiquité. Donatello réalise une statue équestre. À son tour, un peu plus tard, Verrocchio réalisera une statue équestre. Et par rapport à celle de Donatello, petit progrès que tout le monde pouvait remarquer, on a l'impression que la statue s'arrache davantage, ça franchit un peu mieux des lois de la pesanteur, se dégage davantage de son socle. On peut continuer. Donatello a réalisé une figure du David. Alors, David, vainqueur de Goliath, qu'il va représenter presque nu, c'est une manière évidemment d'exalter à nouveau la beauté du corps nu. C'est la première statue, vraiment la ronde bosse, qui soit un nu monumental grandeur nature, comme dans l'Antiquité. C'est dans les temps modernes la première statue d'un personnage nu grandeur nature. Évidemment, cette œuvre sera très remarquée. Elle est en effet absolument magnifique. Un peu plus tard, Verrocchio va à son tour réaliser une statue d'un David. Et pas nu, mais quand même faite pour faire valoir la beauté du corps d'un jeune athlète. Et évidemment, vous connaissez le troisième jalon en fait, dans cette histoire des représentations de David. Si on pourrait aller jusqu'à l'époque baroque, il y a aussi un grand exemple, encore tout à fait différent, du Bernin, grand artiste baroque. Ici, c'est Michel-Ange qui, cette fois, traite le David dans des proportions monumentales. David, ce jeune homme, ce jeune adolescent vainqueur d'un géant, est devenu un géant à son tour. La statue fait 4 mètres de hauteur, en quelque sorte. Michel-Ange écrase la concurrence. Et un dernier exemple, je pense, cette fois dans le domaine de la peinture, la ville de Florence demande à la fois Léonard de Vinci, qui a une bonne cinquantaine d'années, et à Michel-Ange, qui est plus jeune, mais qui s'est déjà imposé comme un artiste important, de réaliser des scènes de bataille qui vont se trouver l'une à côté de l'autre dans une salle du Palazzo Vecchio. Et en fait, les deux artistes vont se mettre au travail et réaliser des cartons, c'est-à-dire des modèles à la grandeur de l'original qu'ils n'auront plus qu'à reproduire. Et Léonard de Vinci va commencer à peindre sa fresque sur ce thème de la scène de bataille, mais il ne réalisera que le groupe central, après quoi il abandonnera son travail et Michel-Ange, à son tour, n'aura plus vraiment de motivation pour continuer et abandonnera aussi son travail. Restait plus exactement à l'époque, parce que tout ça malheureusement a été détruit, mais à l'époque restaient les cartons. Et les cartons, on les a exposés côte à côte au Palazzo Vecchio à Florence, et tous les artistes allaient les voir, et on disait que c'était en soi, la visite au Palazzo Vecchio, une leçon d'art qui résumait tout. Et où on pouvait confronter, évidemment, l'art de ces deux grands maîtres. Donc, émulation cultivée, vous le voyez, et extrêmement féconde du point de vue artistique. Alors, nouvelle technique, nouveaux essais, je vais essayer de rester plus ou moins dans le temps, attirer votre attention sur quelques nouveautés sur le plan technique qui vont déterminer profondément l'art de ce début des temps modernes. Dans le domaine du relief, une technique qu'on appelle le schiacciato et qui apparaît chez Ghiberti précisément, une technique qui consiste à... En une gradation des effets de relief et que l'artiste a mis en œuvre sur une deuxième porte qu'il a été amené à faire pour le baptistère de Florence. Après avoir remporté le concours, après avoir réalisé une première porte, ce qui lui a pris une bonne vingtaine d'années, il avait suscité tant d'émerveillement chez les Florentins qu'il se vit passer une commande pour une nouvelle porte, la plus de concours, on lui donnait carte blanche, et il a décidé de réaliser en fait des reliefs comparable à des panneaux peints, c'est-à-dire cette fois non plus des quadrilobes, mais des rectangles, et à les traiter comme des panneaux peints, comme des tableaux, c'est-à-dire à donner un sentiment d'espace et d'échelonnement des choses dans l'espace. Et c'est comme ça qu'il a utilisé cette technique du schiacciato, gradation des effets de relief, avec des figures qui donnent l'impression de se détacher très très fort et qui occupent le premier plan, avec tout au fond... un relief très, très discret, le relief comparable à celui des médailles ou des monnaies, et puis avec des éléments intermédiaires. Et ça donne effectivement une suggestion de spatialité très efficace. Alors, je vous montre des détails aussi pour le plaisir des yeux. Vous voyez ici, vous voyez la création d'Adam et Ève, et puis à droite, vous voyez l'expulsion du paradis, vous voyez le péché originel, et bien voilà, en très faible relief, en arrière-plan. Donc vous voyez que tantôt on a du haut relief, tantôt on a du bas relief, tantôt on a des reliefs tout à fait écrasés. Alors, maintenant, pour le plaisir des yeux, je vous montre quelques détails absolument magnifiques. Voilà, c'est l'œuvre de Ghiberti qui entend le proclamer et on peut le comprendre. Autre élément nouveau et tout à fait inédit, et cette fois au XVIe siècle, et de manière encore tout à fait exceptionnelle chez des artistes d'exception, l'exploitation expressive de ce qui a été appelé le non finito, c'est-à-dire l'effet de d'inachèvement, un effet d'inachèvement cultivé. Michel-Ange, dans la chapelle des funéraires des Médicis à Florence, eh bien vous voyez que cet effet, il se l'est autorisé dans la représentation des statues allégoriques du jour et de la nuit, surtout le jour qui est représenté à droite sur l'image. Vous voyez que c'est un vieillard, mais que si certaines parties de son corps sont tout à fait achevées, lissées, polies soigneusement dans le marbre, d'autres sont encore très élémentaires, seulement esquissées. Et ce sur quoi le personnage est installé, c'est encore une sorte de marbre brut. Et l'artiste a voulu laisser les choses comme cela. Pourquoi ? Pour suggérer peut-être le jour qui naît, tout est encore à définir, à préciser. Évidemment, le pouvoir de suggestion de l'inachèvement est extrêmement fort. Et l'artiste est le premier à en avoir conscience et à l'exploiter. Il le fera à plusieurs reprises et on retrouvera un effet comparable chez le Titien dans la peinture cette fois. Dans cet autoportrait, vous voyez que le Titien n'a pas essayé de détailler en fait le portrait, mais laisse à l'imagination accomplir son travail en fait pour restituer les choses dans le détail. Alors, parmi les innovations techniques très importantes, apparition en Italie de la peinture à l'huile. La peinture à l'huile, c'était la technique que les Flamands avaient mise au point. En Italie, traditionnellement au XVe siècle, on travaillait avec de la peinture à l'eau, de la détrempe, comme on dit. Et l'effet était très différent. Je vous montre une peinture de Frangilico, je vous montre en regard une peinture de Van Eyck, caractérisée par une profondeur des couleurs, par une onctuosité de la peinture qui permet des effets beaucoup plus sensuels, en fait. Et les Flamands vont être les Italiens, pardon, vont être extrêmement admiratifs face à cette technique des peintres flamands. Et pour cause, je vous montre quelques détails qui supposaient le génie, l'extraordinaire talent des grands peintres flamands du XVe siècle, mais aussi le recours à ce médium nouveau qui était la peinture à l'huile, une peinture qu'on pouvait utiliser, dont on pouvait exploiter la translucidité, l'onctuosité, et qui permettait une variété d'effets que la détrempe ne permettait pas d'obtenir. Et peu à peu, en fait, la peinture à l'huile va s'introduire dans l'art italien, et un artiste qui a joué un rôle capital à cet égard, c'est Antonello de Messine, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous montre tout d'abord, pour comprendre la nouveauté de l'art d'Antonello da Messine, un portrait de Jean Van Eyck et un portrait contemporain d'un artiste italien, Antonio Pollaiuolo, dont je ne pense pas vous avoir parlé jusqu'à présent. Vous voyez que l'effet était tout à fait différent et qu'on peut comprendre quand même que les Italiens étaient captivés par la peinture flamande et admiratifs devant cette impression de vérité, de présence physique du personnage tellement plus grande dans l'art flamand. Antonello da Messine, à Naples, semble avoir côtoyé des peintres flamands et en tout cas, il a appris à peindre à l'huile. Et voilà un portrait d'Antonello da Messine qui ressemble vraiment au portrait flamand et qui va en quelque sorte occasionner une révolution dans l'art italien de cette époque. Alors Antonello da Messine est un artiste qui travaille à Naples. S'il avait passé toute sa vie à Naples, son rayonnement aurait été sans doute assez limité. Mais à un certain moment, il s'est rendu à Venise, très précisément en 1475. Et on sait qu'il a réalisé là-bas une œuvre dont on n'a plus qu'un fragment, mais je vous le montre quand même, et je vous montre la composition dont elle était issue, pour que vous puissiez comprendre, en fait, l'impact qu'il a eu sur l'art vénitien. En 1475, il arrive avec cette technique de la peinture à l'huile, et Giovanni Bellini, qui jusque-là peignait avec de la détrempe, va découvrir cette peinture d'une qualité nouvelle et va mettre à profit en fait l'exemple d'Antonello de Messine. Et c'est un tournant vraiment dans sa peinture et c'est un tournant général dans la peinture italienne de cette époque qui se produit là. Et dans les nouveautés techniques en fait qui vont un peu dans le même sens, il y a ce sfumato de Léonard de Vinci, qui utilise la peinture à l'huile et qui, à la différence de la tradition florentine qui était une tradition du dessin, qui sculptait les formes et qui les dessinait très précisément, décide au contraire d'effacer les contours, parce que dans la réalité on ne voit pas des contours en fait. C'est une approche très cérébrale des choses que celle qui consiste à dessiner les contours. Et c'est ainsi que vont s'opposer deux formes artistiques très différentes, basées sur deux traditions tout à fait différentes, et l'une qui va être assimilée à la tradition toscane, et l'autre qui sera propre à la tradition vénitienne, une opposition entre le dessin, qui est privilégié dans la tradition toscane, et la couleur, et des effets beaucoup plus sensuels qui sont privilégiés dans la tradition vénitienne et qui conduisent davantage, je crois, à une façon de peindre qui est la façon de peindre moderne qui s'est imposée par la suite. Alors je vous montre quelques images. Mantegna n'est pas un toscan, mais il est tout à fait représentatif d'une manière qui est la manière très graphique héritée de la tradition toscane. Giorgione, lui, ne dessine plus, on le disait même, il attaquait directement les formes au pinceau, ce qui leur donne beaucoup moins de précision, mais aussi quelque chose de beaucoup plus, il y a quelque chose de beaucoup plus sensuel dans sa peinture. Et voyez, et voilà deux détails, voilà, je suis allée trop vite, et voilà deux détails des deux peintures en question qui vous montrent en fait comment effectivement on a deux approches de l'art tout à fait différentes, l'une plus cérébrale, l'autre plus picturale. Et en fait, c'est vraiment à Venise qu'on tirera les conséquences de cette peinture beaucoup plus sensuelle. Je vous montre deux exemples. Dans le courant du XVIe siècle, le Titien, vous voyez, avec cette manière de peindre, eh bien, qui est une manière de peindre qu'on a cultivée au fil des siècles, pratiquement jusqu'aujourd'hui, où l'artiste dessine beaucoup moins. mais aborde davantage la réalité en tant que peintre. Je vous montre un autre exemple, une peinture du Tintoret. Vous voyez qu'ici, il y a des jeux de pinceaux qui sont désormais valorisés, une gestuelle de l'artiste qui travaille, et c'est une autre nouveauté, qui travaille sur toile. Et de plus en plus, on va adopter comme support de la peinture la toile, alors que jusque-là, on avait plutôt privilégié la peinture sur panneau. Je termine avec un mot de conclusion. Qu'est-ce que nous avons vraiment conservé de l'art de la Renaissance? Qu'est-ce que, en quoi nous a-t-il profondément marqué? En fait, je crois que nous avons conservé beaucoup de choses de l'art de la Renaissance, mais sans doute la plus fondamentale est-elle une approche de l'œuvre d'art qui soit dégagée de préoccupations exclusivement fonctionnelles et utilitaires. Bien sûr, à la Renaissance, une œuvre religieuse reste une œuvre religieuse. Le portrait d'un grand souverain reste le portrait d'un grand souverain destiné à le glorifier. Mais une nouvelle dimension s'introduit dans l'appréciation de ces œuvres. On apprécie désormais en plus leur qualité d'invention, leur qualité esthétique, qui ont retenu avant tout l'attention de l'artiste, qui ont fait l'objet de toutes leurs recherches. Et on commence à apprécier ça, et c'est absolument nouveau à la Renaissance, et c'est ce que nous avons appris nous-mêmes à chercher dans une œuvre. C'est une dimension qui s'ancre dans notre expérience commune, mais qui nous conduit au-delà, qui transcende notre expérience commune. Et donc nous apprécions dans cette œuvre, eh bien, ce que l'artiste y a mis au-delà de l'aspect purement utilitaire. Il est évident ici que Raphaël, représentant la mise au tombeau, a cherché non seulement à faire une peinture religieuse, mais aussi à faire une œuvre qui soit d'une beauté parfaite. Il y a une recherche formelle ici, une recherche sur la composition, une recherche sur la beauté des attitudes, une recherche sur la beauté plastique des personnages, qui est absolument extraordinaire. Et bien sûr, on peut dire la même chose à propos de Pontormo. Je vous montre des détails, c'est vrai aussi pour le maniérisme. Fait significatif, c'est à partir de la Renaissance qu'on a commencé à collectionner et à apprécier le dessin, non plus la peinture ou les reliefs, mais le dessin qui préparait, qui constituait les étapes d'élaboration initiale d'une œuvre d'art. Des dessins, donc même des dessins préparatoires, on a conservé des œuvres inachevées comme cette œuvre de Léonard de Vinci, en fait des documents qui lèvent un coin du voile sur le processus créateur dont les œuvres résultent, sur cette inspiration qui habitait l'artiste. Un artiste qui est désormais apprécié et admiré pour cet accès qu'il essaye de se frayer et qu'il ménage au spectateur par la même occasion vers quelque chose de plus essentiel que le monde des apparences, que le monde des choses fortuites, que le monde des choses imparfaites. Un artiste qui, dit-on à la Renaissance, poursuit l'œuvre divine qui concourt à porter la nature à un état de perfection. Et en somme, ce que la Renaissance a introduit, eh bien, ce n'est rien moins que notre conception moderne de l'art, notre conception moderne de l'artiste et notre conception moderne du geste créateur de l'artiste. Je vous remercie de votre attention.
Merci pour cet exposé. Alors, je vais passer la parole au public s'il y a des questions ou des remarques.
S'il vous plaît, ma question porte sur la relation de Léonard et de l'Antiquité. Quand on parle de Renaissance, c'est surtout la Renaissance de l'Antiquité qu'on évoque, mais j'ai l'impression que Léonard revendique plutôt la nature comme son maître principal, pas, je veux dire, ce qu'il hérite de l'Antiquité.
Oui, vous avez raison dans une large mesure, même si on sait qu'à une certaine période de sa vie, Léonard, lors d'un passage à Venise, a eu l'occasion d'être confronté à une collection d'antiquités et de s'en inspirer dans son art. Néanmoins, pour pour l'essentiel, ce que préconise Léonard, c'est l'étude de la nature, et l'étude directe de la nature, et le refus de toute médiation. Et il tourne en dérision d'ailleurs des artistes qui travaillent en atelier, s'imitent les uns les autres. Il a des propos très durs à propos de Botticelli, par exemple, dont il dit qu'il ferait bien d'aller voir la nature. Donc, je crois que fondamentalement, vous avez raison, mais il ne faut pas non plus imaginer que Léonard ne portait pas d'intérêt à l'Antiquité. On a des indices bien clairs de l'intérêt qu'il a porté à l'Antiquité lors d'une phase bien déterminée de sa carrière.